Alors, on parle politique pour commencer donc cette semaine avec Paul Journet et Carl Bélanger. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Bonjour.
On va parler un petit peu, Paul, d'abord d'argent. D'argent parce qu'on a vu que finalement, les finances publiques sont en bien meilleur état qu'on le pensait. Et dans le fond, la CAQ a eu droit à un petit cadeau.
Ben oui, c'est pas dans nos habitudes hein, d'assister à ce genre de scène-là. Habituellement, le nouveau parti au pouvoir dit qu'il y a un trou, le gouvernement précédent était pas bon.
Oui.
Surprise.
Exact.
Et finalement, c'est un peu le contraire.
On est obligé de renoncer à la moitié ou trois quarts des engagements
exact.
Qu'on a pris
je sais
parce
pas
que le trou est immense.
Je sais pas comment t'appelles ça, le contraire de déchirer sa chemise, avoir assez d'argent pour s'en acheter une coupe de neuf, je sais pas.
Ouais.
Mais
oui.
Donc, c'était une des, sinon je pense, la première conférence de presse donnée par le nouveau ministre des Finances, Éric Girard.
Oui.
Et écoute, il était content. Il hérite d'un surplus de 3 milliards. L'économie performait encore mieux.
Ça, c'est pour combien de mois, le 3 milliards? Là?
Ça c'est pour le début de l'année. Donc, on n'est pas encore arrivé à la fin de l'année. Mais ça va encore mieux que prévu. Et ça va lui donner un certain coussin. Parce qu'on sait que la première grande annonce là, attendue du gouvernement caquiste, ça va être la mise à jour économique. Je sais qu'on parle beaucoup de la question quel sera le premier projet de loi, mais ce sur quoi la CAQ mise le plus, je crois, c'est leur première mise à jour économique, attendue avant la fin de l'année, dans laquelle ils vont pouvoir donner les incitatifs fiscaux qu'ils avaient promis.
Et
on voit qu'ils en ont particulièrement les moyens.
Moi, je pense qu'ils vont annoncer une baisse du fardeau fiscal. Est-ce que ça va être
oui,
la
c'est
baisse...
ça, excuse-moi, oui.
Oui. Est-ce que ça va être la baisse de la taxe scolaire? Est-ce que ça va être, on ramène les tarifs de CPE à 8-9 $ indexés?
Oui, puis surtout, est-ce qu'on met fin à la modulation tant décriée
oui.
du gouvernement libéral? Ça,
oui.
c'était une décision oui. qui n'a pas passé, puis on comprend pourquoi.
Dans les tarifs de garde, oui,
exact.
C'est ça, exactement. Donc, ils vont avoir des belles nouvelles à annoncer juste avant Noël?
Oui, juste avant Noël.
Hein?
Et surtout, ils n'auront pas d'excuses pour ne pas tenir leurs promesses, parce
non.
que c'est souvent ça.
Ben oui, c'est ça.
Alors là, on a 3 milliards, on est en mesure de livrer la marchandise du côté de la CAQ et moi, je pense que c'est en partie à cause du pouvoir qu'a la vérificatrice générale de regarder les livres juste avant que l'élection soit déclenchée pour que tout le monde ait une bonne idée puis qu'on arrive à la fin sans surprise.
Juste pour préciser les dates exactes, Bernard, donc on parle des résultats du 1er avril au 31 août dernier et l'excédent est presque deux fois plus élevé que celui qu'on avait enregistré l'année dernière. Donc, en 5 mois, 3 milliards de surplus.
Oui. Avril, mai, juin, juillet, août. Ouais.
Ça,
il faut faire attention. Il faut faire attention, par exemple, parce que des fois, les surplus des premiers mois, ça veut... En d'autres mots, c'est pas parce qu'ils ont fait 3 milliards de surplus dans la première moitié, arrondissons, qu'ils vont faire 6 milliards pour l'année au complet.
Oui,
là,
parce qu'on sait que les dépenses ne sont pas égales d'un mois
c'est
à l'autre.
Ça,
souvent,
ça.
Elles s'intensifient vers
ça.
La fin de l'année.
C'est
par
ça.
Contre, là, on compare des pommes avec des pommes.
Oui, oui,
on
oui.
parle des surplus enregistrés cette année par rapport à l'année dernière durant la même période. Mais le ton, sans surprise, du ministre Girard en était un prudent. Il veut pas dire, écoute, on nage dans l'argent, on sait plus quoi en faire, le party s'en vient. Mais quand même, prudent, mais assez content.
L'autre question qui se pose, c'est du côté du Parti libéral. Est-ce qu'on a laissé 3 milliards sur la table alors qu'on aurait pu s'en servir peut-être pour faire une ou deux promesses supplémentaires?
Oh,
ça, c'est une question que...
Ils ont dépensé en motadis le printemps passé. Tu te rappelles, là, il n'y avait pas une journée, il n'y avait pas une annonce. Là.
Mais il reste quand même 3 milliards de surplus.
Oui, il avait essayé de vider les sacs. Souviens-toi du dernier budget puis
le
graphique du Parti québécois
qu'ils
appelaient le doigt d'honneur où tu avais la croissance des dépenses. Puis tu avais une année sur 5 ans qui était celle dans le milieu où les dépenses étaient très élevées. Donc, je laisse à tout le monde le temps de se faire une image mentale. Tu as un graphique avec 5 barres. Celle dans le milieu est la plus élevée du point de vue du Parti québécois. C'était une insulte.
Oui.
Et
celle du
haut.
Milieu, c'était l'année présente, là.
Exact.
C'était 2018-2019, parce que les deux autres, après, c'était des projections pour les années à venir. Très bien. Carl, parlant d'argent, les anciens combattants se sentent lésés par le gouvernement, c'est ça?
Mais c'est pas seulement qu'ils se sentent lésés, c'est qu'ils ont été lésés. Écoute bien, c'est Murray Brewster de CBC qui vient de sortir ça. Pendant 8 ans, plus de 272 000 vétérans de l'armée canadienne ont reçu 165 millions de dollars de moins qu'il devait recevoir à cause d'une erreur comptable. Le gouvernement a fait un mauvais calcul d'indexation mensuelle. Donc, ils n'ont pas reçu l'argent auquel ils avaient droit. Le pire dans tout ça, Bernard, c'est que depuis ce temps-là, ça c'est survenu en 2002 et 2010, depuis ce temps-là, 175 000 d'entre eux sont décédés.
175 000 des 272 000 vétérans lésés sont morts.
Donc là, le gouvernement, on parle évidemment des anciens combattants, Deuxième Guerre mondiale, guerre de Corée, donc on arrive à un certain âge.
Ben oui.
Et là, le gouvernement devra dépenser de l'argent pour retracer leur succession, ce qui sera pas toujours évident. Tu sais, c'est beau se draper dans les hommages. Là, on est à 6 jours, quoi, du jour du souvenir. Là, puis là on voit les drapeaux, puis les cérémonies, puis nos politiciens vont être là, puis le cœur sur la main. Mais quand ça compte vraiment, le gouvernement est pas là. Il y a 2 mois, il y a eu un rapport lapidaire de l'Ombudsman des anciens combattants sur les délais d'attente pour les dossiers des vétérans de l'Afghanistan. Il y a des délais inexplicables. On en a parlé à l'émission.
Oui, absolument.
Le programme de placement pour les anciens combattants, c'est un échec total. Puis là, on apprend que 272 000 d'entre eux ont perdu 165 millions de dollars. C'est pas des pinottes, là.
C'est des bidous, ça, mon ami, là. C'est des bidous.
Fait que, tu sais, puis ça, faut se rendre compte que c'était une erreur qui est survenue et qui n'a pas été corrigée sous le gouvernement Harper. Et le gouvernement Harper, s'il y en a un qui aimait se vautrer dans les symboles militaires et dans les anciens combattants et s'en servir pour faire de la politique, c'était bien eux. Mais comme je l'ai dit tantôt, quand c'était le temps de vraiment les servir, ben ils ont manqué de rigueur. Mm. Et ça a coûté très cher à des gens qui souvent vivent dans la pauvreté, ont eu de la difficulté, des problèmes de santé mentale. C'est des gens qui ont besoin de notre aide parce qu'ils ont servi leur pays,
ben oui,
dans des conditions très difficiles souvent.
Mais je comprends
et puis
pas.
Puis on les laisse
là,
tomber.
Je comprends pas. Là. L'erreur est survenue entre 2002 et 2010.
Voilà.
Puis c'est en 2018 qu'on découvre le poteau rose.
Mais exactement. Et en fait, ce qui est arrivé inexplicablement, là, il semble qu'Ancien Combattant Canada a recommencé à bien calculer en 2011.
OK.
Donc, l'erreur a eu lieu en 2002 et 2010.
Ouais.
Mais on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait eu une erreur. Et là, selon ce que Murray Brewster rapporte, il y a une proposition qui a été présentée au Conseil du Trésor pour offrir des paiements rétroactifs à ces gens-là.
Hey.
C'est le bureau de l'Ombudsman qui est allé fouiller dans les dossiers. Ça fait depuis, je dirais environ 1 an qu'ils travaillent là-dessus, selon ce que rapporte Murray Brewster. Et là, ils travaillent avec le ministère pour corriger la situation, mais on peut pas corriger là ces gens-là. 175 000, je le répète, 175 000. Qui sont décédés. Je trouve ça aberrant.
Ben, je trouve ça gênant. OK, on va s'arrêter. On a une petite pensée pour eux. Et puis au retour, une nouvelle recrue pour le gouvernement de François Legault. Encore une ancienne péquiste qui s'en va à la CAQ. Paul va nous en parler. Et puis toi, Carl, ben, tu vas nous parler de cette idée de refonder le Bloc québécois. Ça aussi, c'est sur la table. Tout ça après la pause. Bon, ben ça, c'est quand même la nouvelle du jour, puis ça a des répercussions dans le monde politique. Donc, la fermeture de ces magasins Rona un peu partout au Canada, et en particulier au Québec, où ils vont en fermer 9, y étant Lowe's, hein, les propriétaires américains, hein, qui avaient acheté Rona, vous vous rappelez, ça avait causé toute une controverse. Là, Paul Journet, le Parti québécois est sorti pour dire « Voyez bien, c'est la preuve qu'on avait raison ». On aurait dû protéger Rona, on n'aurait pas dû les laisser se faire acheter par les Américains parce que là, on récolte ce qu'on a semé, c'est-à-dire des fermetures.
Oui, il y a quand même quelques nuances qu'il faut apporter. Écoute, on ne refera pas toute l'histoire, mais quand même, rappelons qu'en 2012, il y avait eu une offre d'achat hostile. Ça veut dire que Rona ne la voulait pas. Et c'est pour ça que tous les acteurs politiques au Québec se sont ligués pour protéger Rona.
En achetant des actions de Rona dans le cas d'Investissement Québec.
Oui, puis là, arrive 2015-2016, il y a une nouvelle offre d'achat, mais celle-là, elle n'est pas hostile. Elle est accueillie favorablement. Donc, forcément, la légitimité politique d'intervenir pour stopper la transaction, elle est beaucoup plus faible. Et l'autre chose que j'ajouterais, c'est que même sans la transaction, c'est pas certain que Rona n'aurait pas fermé un seul de ses magasins parce qu'on le sait, il y a des gens qui disaient que les possibilités de croissance à moyen, long terme pour Rona dans le marché actuel, avec la compétition accrue d'autres joueurs comme Home Depot, puis surtout avec les difficultés de façon générale du commerce, en détail par rapport au commerce en ligne. Bon, ce n'était pas des perspectives tout à fait roses, mais je comprends tout à fait les gens qui, comme le Parti québécois, qui s'inquiètent de l'érosion des centres de décision au Québec, puis que les décisions semblent être prises de plus en plus selon une logique financière par rapport à une logique entrepreneuriale et une logique purement donc de business par rapport aux intérêts de façon plus générale du Québec. Mais en terminant, citation intéressante par rapport à la CAQ, Christian Dubé, qui est à la Caisse de dépôt, on le sait, qui est maintenant à la CAQ, secrétaire du Conseil du Trésor. Lui avait dit que c'était justifié, cette transaction-là, puis quand la Caisse avait accepté de vendre, il y avait un équilibre, disait-il, entre le développement économique du Québec et l'impératif pour la Caisse de maximiser le rendement.
Oui, parce que la Caisse, il faut se le rappeler, avait vendu ses actions de Rona et avait fait un très beau profit. Mais ce que j'allais te dire, moi, mon inquiétude dans cette histoire-là de Rona, et c'est une inquiétude que j'ai toujours, c'est toujours par rapport aux fournisseurs québécois et canadiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Lowe's achète, on sait bien que le siège social puis toutes les grandes décisions se prennent dorénavant au siège social américain. Peut-être pas toutes, mais en tout cas une partie, on s'entend. Et donc, toutes ces entreprises québécoises qui fournissent du matériel, qui vendent des produits à Rona, à mon sens, à moi, quand tu éloignes le centre de décision puis tu l'envoies dans le sud, ben, tu t'éloignes aussi de tes fournisseurs locaux. Et moi, mon inquiétude, ça a toujours été dans cette transaction-là que des belles entreprises québécoises qui fournissaient du matériel, qui fournissaient des outils, qui font toutes sortes d'affaires, finalement perdent au change.
Bien, c'est l'inquiétude de plusieurs observateurs et Lowe's, lors de la transaction, avait tenu à rassurer les gens en disant on va maintenir nos liens avec les fournisseurs. Il faudrait faire un portrait assez exhaustif de comment ça s'est passé depuis 2016, là, puis c'est quoi les perspectives pour les fournisseurs.
Et c'est de bonne guerre pour le PQ d'attaquer les libéraux provinciaux, là, mais il faut toujours se rappeler que la transaction, elle doit être approuvée par le fédéral en vertu de la loi sur Investissement Canada, une acquisition par une société étrangère. Et que là, il y a des conditions qui sont mises. Et parmi ces conditions-là, à l'époque, on a demandé au gouvernement libéral de Justin Trudeau quelles étaient ces conditions. On parlait qu'il allait avoir un rôle important des Canadiens au sein de la haute direction. Pour l'instant, ça semble être le cas. Mais aussi, on parlait d'un niveau élevé d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne suis pas certain, c'est pas défini, mais quand on ferme 9 magasins, il y a des emplois qui vont se perdre, là, malgré ce que l'entreprise veut dire, en disant on va relocaliser ces gens-là. Si on relocalise, ça va être au détriment de d'autres employés, on va faire ça à temps partiel, à temps temporaire, etc., etc. Et on dit que ces engagements-là, évidemment, étaient juridiquement contraignants, mais attendez-vous pas à ce que le gouvernement fédéral fasse quoi que ce soit.
Ben voyons.
Malheureusement, c'est trop souvent le cas.
Ben, il était bien formulé, justement. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient protéger chacun des emplois. Ils ont dit qu'ils allaient maintenir un niveau élevé. Puis là, on peut s'ostiner sur qu'est-ce qu'un niveau élevé. Puis il y a des avocats qui étaient derrière cette formulation-là.
Mais c'est toujours la même histoire, là. Quand on se fait acheter comme ça, on nous promet toujours mer et monde, puis après coup, on se rend compte.
Mais la question, le test, c'est est-ce que c'est à l'avantage économique d'ensemble pour le Canada d'approuver une transaction comme ça? Et là, tu viens de démontrer, Bernard, quand tu as mentionné les fournisseurs, tout ça, lorsqu'il y a ces acquisitions-là et que le centre décisionnel gravite vers le sud, mais c'est très difficile pour tous les fournisseurs québécois et canadiens de garder le lien direct avec la haute direction de la compagnie.
OK, vite, Paul, parce qu'on l'a annoncé, Danielle Rioux, donc, qui a été une organisatrice du Parti québécois pendant nombre d'années, elle fait le saut à la CAQ, elle s'en va travailler au cabinet de la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, André Laforêt. Donc, c'est une autre recrue pour la CAQ.
Oui, et départ pour le PQ, un autre départ qui fait mal. Et j'ai appris ça sous la plume de mon collègue Denis Lessard. Puis, c'est intéressant de lire le statut Facebook de Mme Rioux, son constat. Assez alarmant pour les indépendantistes. Elle dit « Le Bloc québécois et le Parti québécois semblent maintenant partis en vrille dans une inexorable descente. Ils sont, selon elle, sur le respirateur, carrément. » Et elle dit « Moi, je reste fidèle à mon objectif professionnel, servir le Québec. » Et j'ai choisi de rallier un parti qui
est au pouvoir.
Qui est au pouvoir, puis pour qui c'est le Québec d'abord, dit-elle, selon ses mots, un parti qui est pour les baisses des cibles d'immigration et contre le multiculturalisme, et ça semble la satisfaire.
Très bien. Ce qui m'amène à te poser la question, Carl, qu'est-ce que tu penses de cette idée lancée par Mario Beaulieu de refonder le Bloc québécois? On a une minute. Est-ce que tu y vois un avenir? On parle d'un congrès en février 2019. Est-ce que tu penses que le Bloc a un avenir?
Ben c'est drôle parce que Mario Beaulieu ce matin disait que tout était sur la table. Le nom du parti, son image, son logo, son programme, ses statuts, ses règlements. Mais est-ce que la raison d'être même du Bloc est sur la table? J'ai pas l'impression que c'est le cas. Et s'il n'y a pas une réflexion profonde qui est faite là-dedans, mais on n'avancera pas parce que est-ce qu'il y a une utilité à Ottawa pour le Bloc québécois présentement?
Mais c'est quoi son utilité d'après toi? C'est l'indépendance ou c'est la défense des intérêts du Québec?
Et c'est là où est arrivée la scission là, sous Martine Ouellette. C'est là où on a formé Québec debout. Oui. Et si on se pose pas ces questions-là, ben on se retournera dans ce débat-là. Et le pire, c'est qu'évidemment, le nouveau chef ou la nouvelle chef sera choisi après que la réflexion soit faite.
Ah oui. On aura. Le congrès est en février et là où la chef serait choisie en mars.
Ça, c'est un peu étrange.
Je suis d'accord avec toi, c'est un peu étrange. Carl Bélanger, consultant et stratège. À demain, Carl.
Au revoir.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Tu nous prépares un édito sur Rona, hein, c'est
oui.
ça? Alors, on lira ça demain?
Je l'espère.
Toujours profond, n'est-ce pas?
Je l'essaie.
OK, on s'arrête. Au retour, on va vous parler congestion routière, changer les horaires. Est-ce que ça peut être une idée intéressante?